Alors, on va commencer. Voilà, bon, donc je me présente, Alain de Murger, je suis historien de profession et enseignant de métier, et à la retraite depuis une petite dizaine d'années. Et je m'occupe plus particulièrement de l'ordre des Templiers, mais aussi des autres, et puis de la croisade, et puis de tout ce qui va autour. Et puis j'ai enseigné le Moyen-Âge pendant 30 ans, depuis Clovis jusqu'à Jeanne d'Arc et au-delà, puisque une fâcheuse tendance à prolonger le Moyen-Âge, non pas jusqu'en 1950, mais pas loin. Donc, je viens vous présenter ici un ouvrage, enfin, à propos d'un ouvrage auquel j'ai participé, le dictionnaire des prier et combattre, dictionnaire des ordres religieux militaires au Moyen-Âge, dictionnaire européen des ordres religieux militaires européens, dictionnaire européen des ordres religieux militaires au Moyen-Âge. Bon, le titre avait été effectivement assez difficile à mettre au point. Donc à cette occasion, je voudrais d'abord vous présenter rapidement ce que sont ces ordres religieux militaires, puis ensuite donner aussi quelques indications sur ce dictionnaire, sur ce qu'il contient, ce pourquoi cette entreprise a-t-elle été lancée, ce qu'on peut en espérer et en attendre, et puis vous dire deux mots aussi, c'est peut-être pas inintéressant non plus de savoir comment on l'a fait, comment on l'a fabriqué. Je pense que ça peut vous intéresser. Alors, pour les ordres religieux militaires, on est, je crois, à proximité ici d'une rue qui s'appelle la rue du Temple. Je ne sais pas si c'est le temple, mon ordre religieux militaire, ou bien si c'est un temple protestant qui se trouve au bout de la rue, j'en sais trop rien, mais je pense plutôt que c'est le temple, l'ordre du Temple, qui devait avoir sa maison dans le secteur. Remarquez bien qu'on appelle ça la rue du Temple, on ne va pas l'appeler la rue de l'hôpital, la rue des hospitaliers de Saint-Jean, alors que pourtant, la maison, s'il y avait dans cette rue la maison du Temple, de l'ordre religieux militaire du Temple, elle est devenue, après 1312, un établissement de l'ordre de l'hôpital, puisque les biens du Temple, lorsqu'il a été supprimé en 1312, ces biens, toutes ces maisons, toutes ces terres, ces domaines, ont été donnés à l'ordre concurrent, mais aussi partenaire, des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenu après l'ordre de Rhodes et présentement l'ordre de Malte. Donc on l'appelle rue du Temple, on ne l'appelle pas rue de l'hôpital, rue des hospitaliers ou des chevaliers de Rhodes ou des chevaliers de Malte, encore une fois, à supposer qu'on fasse bien référence à ce temple-là. C'est assez significatif. Quand on parle des ordres religieux militaires, on en cite un, on connaît le temple, et puis tout le reste, bon, ça passe à l'as, c'est pas vendeur, on ne peut pas, ça n'intéresse personne, ou il faut qu'il y ait Templiers. N'importe quel éditeur vous dira que lorsqu'on fait quelque chose sur les ordres en général, il faut que le mot Templier apparaisse. Pas l'ordre du temple, Templier. Hein, il faut les Templiers, et on peut ajouter après les autochtoniques, les hospitaliers, les santiaguistes, les calatrava et tout ce qu'on veut, mais Templiers d'abord. Alors, effectivement, l'ordre du Temple est bien le premier ordre religieux militaire. C'est le premier de ce type, qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Au moment où il a été fondé, en 120, le monachisme de l'époque était un monachisme de méditation, de retrait du monde. Les deux grandes expériences monastiques du moment, fin du XIe siècle, c'est d'une part Cluny, l'ordre bénédictin, et puis l'ordre de Cîteaux qui est créé à la fin du XIe siècle et qui va connaître un développement assez fulgurant dans les premières 20 années du XIIe, avec en particulier à partir de 1113-1114 la grande figure de Saint Bernard. Mais l'ordre de Cîteaux, même si Saint Bernard n'a pas vraiment respecté à la lettre le vœu de clôture et de rester à l'ombre du cloître et dans l'abbaye. Il a beaucoup voyagé, beaucoup circulé parce qu'il était quand même une personnalité éminente de l'Église romaine de l'époque. Eh bien, cette expérience est quand même une expérience de retrait du monde. On fait son salut en se retirant du monde. L'expérience qui va être inaugurée par l'ordre du Temple est complètement différente, puisqu'il s'agit d'un ordre religieux qui prétend, au contraire, agir dans le monde, et agir dans le monde, c'est-à-dire auprès des populations, auprès des séculiers, enfin dans le monde séculier, agir dans le monde d'une façon qui est encore plus novatrice et plus scandaleuse même pour certains, c'est-à-dire en exerçant la violence, en faisant la guerre, ou du moins en se livrant à des activités militaires. Donc c'est quelque chose de tout à fait neuf, de tout à fait nouveau. Et évidemment, cette expérience nouvelle, cette expérience neuve, va se heurter à quelques oppositions parmi les membres du clergé, mais va être finalement bien accueillie dans la société laïque, en particulier dans le monde seigneurial, dans le monde chevaleresque, c'est-à-dire dans les couches de population qui appartiennent à ceux qu'on appelle les combattants, par opposition ou aux côtés de ceux qui prient, les orants, et ceux qui travaillent, les laboratores. Donc, cette expérience va être bien accueillie par ceux à qui, dans le fond, elle est destinée, c'est-à-dire l'aristocratie, la grande aristocratie et surtout la petite et moyenne aristocratie laïque, dans laquelle la chevalerie peu à peu fait sa place. Je vous rappelle qu'au départ, le chevalier n'est pas ne se distingue du noble. Il n'est pas noble. Le chevalier, c'est un métier. C'est un monsieur qui monte à cheval et se bat à cheval, et qui est libre, bien entendu, mais qui fait le métier des armes. Et le métier des armes, la plus connue du temps, c'est-à-dire combattre à cheval. Bon, et puis peu à peu, les deux catégories, noblesse et chevalerie, vont se fondre, mais disons qu'à la fin du XIe siècle, ce n'est pas fait. Mais les chevaliers appartiennent à cette catégorie sociale de l'aristocratie et sont utilisés, en tout cas, par les nobles, les seigneurs, les puissants, ceux qui commandent, ceux qui détiennent le pouvoir de ban, ceux qui détiennent la terre et les richesses qui y sont attachées. Eh bien, l'ordre du Temple va s'adresser finalement à eux. Et pour comprendre à la fois que cette idée ait pu germer dans la tête de quelque esprit malade à cette époque, et que c'est été accueilli avec succès, ben, il faut s'attacher un peu au contexte du moment, au contexte de la fin du XIe, début du XIIe siècle. C'est le contexte, d'une part, de l'essor de l'Occident médiéval. Bon, vous avez tous entendu parler, vous savez bien que les défrichements, les paysans qui coupent les arbres, qui étendent les surfaces cultivées, etc., etc., il y a cet aspect. C'est l'époque qui voit la mise en place de structures à la fois sociales, la seigneurie, hein, qui est une entité économique et sociale, et une entité de pouvoir aussi, un cadre de pouvoir, et la féodalité qui tisse des liens d'homme à homme entre les membres de l'aristocratie. C'est l'époque aussi d'un important mouvement religieux connu sous le nom de réforme grégorienne, qui s'étend largement au-delà de ce qu'on a appelé la correction des abus du clergé, pour prendre une tournure, disons presque totalitaire, à savoir une réforme complète de toute la société chrétienne. Les grégoriens, Grégoire VII, le premier qui a donné son nom à la réforme grégorienne, mais qui n'est pas le seul, elle a commencé avant, elle s'est prolongée après, envisage non seulement de réformer les mauvaises habitudes du clergé, mais ils envisagent une refonte, une réforme complète de la société chrétienne pour, la mettre en conformité, pour que cette société chrétienne soit organisée et que les relations entre les différentes couches de cette société chrétienne soient nouées dans, conformément au schéma voulu par Dieu. Et donc, dans cette réforme grégorienne, et c'est là qu'on va retrouver nos templiers et ensuite les ordres religieux militaires, dans cette réforme grégorienne, eh bien, il y a un aspect qui est fort important, c'est que l'Église, certes, s'affranchit du pouvoir des laïcs, ça c'est une autre phrase bien connue concernant la réforme grégorienne, elle s'affranchit du pouvoir des laïcs, elle cherche du moins à le faire, à acquérir sa complète autonomie, et elle cherche en même temps à imposer à ces laïcs, donc aux couches sociales non cléricales, l'aristocratie, la paysannerie, les gens des villes un peu, mais c'est encore peu de choses à cette époque, elle cherche à imposer ses vues, son idéologie, sa façon de penser, sa façon de penser la société chrétienne. Mais ce faisant, puisqu'elle impose, elle propose aussi. Elle veut imposer ses règles. Bon, par exemple, vous savez que le mariage chrétien, c'est à ce moment-là que l'Église essaye de l'imposer. Le mariage monogame, par rapport à ce qu'on appelait le mariage, non pas à la mode de Bretagne, ça n'existait pas, mais à la mode des Francs et des barbares du 9e ou 10e siècle. Bon, il y a toute une série de choses que l'Église veut imposer à la société de ce temps, mais en même temps, elle propose à celle-ci des voies propres de salut. Si on veut, si vous voulez, l'Église de la réforme grégorienne rompt avec cette idée, enfin, pas complètement bien entendu, l'exemple de Saint-Bernard est là pour le prouver, mais elle ouvre quand même une porte à cette idée que, après tout, quand on est laïque, quand on est chevalier, quand on est le seigneur comte de je ne sais pas où, de Tancarville ou bien d'ailleurs, quand on est roi, quand on est prince, ou quand on est paysan, libre, et même paysan serf, après tout, les serfs ne sont plus des esclaves, ils ont une âme, donc il faut s'en occuper, eh bien, on peut faire son salut sans entrer dans un couvent et se retirer du monde. Saint Bernard, qui appartenait à ces catégories de l'aristocratie laïque, lui a choisi la voie traditionnelle du retrait du monde en entrant dans Assito. Mais il a assez vite compris que cette voie-là, tout le monde ne pouvait pas la suivre et qu'après tout, c'était peut-être pas non plus utile. Que beaucoup de ces laïcs détenteurs du pouvoir, de l'autorité, étaient utiles dans ce sens qu'ils pouvaient imposer un certain ordre. Contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas d'anarchie féodale, ça n'existe pas. Il y a un ordre féodal, simplement un ordre féodal qui s'établit là où il peut être efficace, c'est-à-dire à un niveau très bas, très décentralisé, dirons-nous. Hein. Mais il y a le seigneur, par les liens qu'il a avec les paysans dans sa seigneurie, par les liens qu'il noue avec d'autres seigneurs dans le cadre des relations féodales, participe à la mise en place d'un ordre. Et cela, l'Église y est favorable dans la mesure où, après tout, ça peut éviter un certain nombre de violences dont étaient victimes ceux qu'on appelle les pauvres, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas d'armes, qui ne pouvaient pas combattre, et au premier chef, les hommes d'Église. Ils ont d'ailleurs, sans doute, comme c'est eux qui écrivent et qui laissent les textes, ils ont beaucoup insisté sur cet aspect des choses, un peu moins sur ce qui pouvait se passer pour les autres catégories de pauvres, de sans-armes, qui subissaient eux aussi la violence ou les troubles des chevaliers, des seigneurs, qui se livraient évidemment à des guerres privées, hein, et puis qui essayaient d'imposer leur pouvoir, d'étendre leur pouvoir aux dépens des voisins. Donc voilà ce contexte, c'est dans ce contexte-là que l'Église va finalement offrir aux laïcs des voies propres vers leur salut. Et sans entrer dans le détail, il va y avoir donc une possibilité pour un seigneur laïc de pouvoir gagner le ciel sans être obligé d'abandonner le métier des armes et sans être obligé de rentrer dans Assitôt ou bien à Cluny. Alors, en quoi faisant ? Bien d'abord, il y a une chose sur laquelle je n'ai encore rien dit, c'est la croisade. La croisade, c'est à la fois un élément du contexte de cette époque, hein, 1095, la prédication d'Urbain II, et puis les 4 ans qu'a duré la première croisade, la libération de Jérusalem des mains des Sarrasins, des musulmans, qui était l'objectif de la croisade, ou du moins l'objectif qu'on avait mis en avant, celui qui a mobilisé les foules. Il y avait d'autres objectifs, mais c'est celui-là qui a été mobilisateur. Et donc, cette croisade est à la fois un élément du contexte, mais elle est aussi un élément de la réforme grégorienne. C'est un moyen pour les réformateurs de l'Église de dire aux seigneurs, aux chevaliers, écoutez, rendez-vous utile, au lieu de vous battre entre vous, au lieu d'embêter les pauvres, les sans-armes, eh bien, reportez votre violence, votre besoin de vous exprimer, eh bien, reportez-le contre les ennemis de l'Église, contre les adversaires de la foi chrétienne, et partez donc libérer Jérusalem, ça sera beaucoup plus utile que de vous battre pour prendre possession du château voisin et brûler les champs des paysans, mais aussi du seigneur. Vous savez, quand le seigneur brûlait les champs, c'était pas pour, il n'était pas fou non plus. Hein. Il savait très bien que si on brûle un champ, il n'y a plus de production. Mais c'était le seigneur voisin qu'il visait. C'était lui qu'il voulait faire céder. Hein. Alors évidemment, ceux qui trinquaient, c'était les paysans. Mais c'est dans cette optique-là qu'il faut voir ces violences. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'est née cette première expérience qui était l'ordre du Temple. Bon, à partir de là, l'ordre du Temple, c'est une initiative de quelques personnes, d'un chevalier champenois qui s'appelle Hugues de Pince, qui était parti en croisade, qui est revenu, qui est reparti et qui est resté sur place. Et avec d'autres chevaliers, soit de Champagne, soit d'ailleurs, il s'était mis au service des chanoines du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Jérusalem libéré par les croisés, le Saint-Sépulcre a été confié à un patriarche latin. Il y avait bien un patriarche auparavant, mais il était de rite grec, il a été chassé. Donc un patriarche latin de l'Église romaine et un collège de chanoines. Le patriarche de Jérusalem, c'est l'évêque de Jérusalem. Hein. Donc ce patriarche de Jérusalem et ses chanoines du Saint-Sépulcre, puisque c'était le lieu où étaient établis les chanoines et le patriarche, eh bien, ont rapidement obtenu des biens, des terres, des dons un peu partout, en Terre Sainte, en Palestine, dans le cadre de ce royaume latin de Jérusalem qui a été fondé. Ces biens, ces terres, il fallait les protéger, les défendre, et on utilisait, comme ça se faisait déjà en Occident au même moment, comme le pape romain l'avait fait dès le XIe siècle, on utilisait des confréries de chevaliers hein, qui se mettaient au service d'une église pour protéger ses biens, combattre ses adversaires, etc. Donc, il y avait gravité autour du Saint-Sépulcre de Jérusalem, gravité ses chevaliers, ses confréries hein, de chevaliers. Il s'est trouvé que Hugues de Pince et ses compagnons n'étaient pas satisfaits de cette situation. Ça ne le satisfaisait pas. Il n'était pas resté pour être là un peu oisif à attendre qu'on veuille bien leur dire « Ah ben, vous allez faire ça, vous allez faire ci, on a besoin de vous là, etc. » Bon. Il voulait créer un véritable ordre, une véritable structure religieuse où il y aurait les deux éléments principaux de tout engagement religieux, monastique ou autre, ou canonial, une règle et des vœux. Une règle comme la règle bénédictine, transformée, adaptée à Citeaux, ce sont les usages de Citeaux, comme une règle pour les chanoines réguliers que sont les chanoines prémontrés, qui est un ordre qui se crée aussi à ce moment-là. Donc, ils veulent une règle, Ils veulent être autonomes, avoir un maître qu'ils désignent, et ils veulent prononcer les vœux religieux, qui sont les vœux d'obéissance, de chasteté, de pauvreté. Ils obtiennent gain de cause auprès du roi et du patriarche de Jérusalem, vers 1120. Ils obtiennent gain de cause auprès du pape et des représentants de l'Église romaine en 1129, au concile tenu à Troyes, en Champagne, qui est un concile provincial qui réunissait les évêques et les clercs des deux provinces ecclésiastiques de Reims et de Sens, mais qui bénéficiait de la présence de la plupart des grands abbés cisterciens, qui étaient évidemment tous dans le coin, puisqu'ils étaient la plupart du temps champenois, bourguignons, que ce soit Cîteaux, l'abbé de Cîteaux proprement dit, Saint-Bernard, qui était abbé de Clairvaux à ce moment-là, et quelques autres. Donc, à partir de là, à partir de 1129, on peut dire, 1120, la première fondation, si vous voulez, la fondation réelle sur le terrain, 1129, la reconnaissance, c'est ce qui vaut. Hein. Il fallait que cette expérience soit validée par l'Église, sinon ça n'aurait rien fait, hein. On n'en aurait plus parlé. Donc cette expérience est validée par l'Église romaine et donc est créé un ordre qui est un ordre religieux militaire où ses membres prononcent donc les vœux d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, et s'engage à vivre selon une règle, mais on accepte qu'ils exercent une activité qui va impliquer l'exercice de la violence, c'est-à-dire une activité qui consiste à protéger, à encadrer les pèlerins qui viennent en Terre Sainte et qui sont quelquefois... Vous savez, les routes de pèlerinage sont toujours encombrées de pèlerins, bien entendu, mais aussi de malandrins qui viennent les piller, essayer. Hein. Les routes de Saint-Jacques dans les Pyrénées, c'est pareil. On a mis ça sur le dos des Basques, mais vous savez, n'importe quelle route de pèlerinage attire. Hein. Il y a des gens qui circulent, il y a donc des gens qui viennent les détrousser. Ça a été très bien démontré dans la série Kaamelott. Il y a quelques scènes comme ça qui montrent très bien comment ça se passait. Hein. Donc, le pèlerin attire le brigand. Bon. Et donc, c'était pareil en Terre Sainte. Et les Templiers, ces premiers Templiers, ce qu'on va appeler les Templiers, vont donc vont se donner comme mission de protéger ces pèlerins. Mais ils vont aussi très vite se donner, être impliqués dans les guerres du royaume de Jérusalem et des États latins. Bon, vous pensez bien que les États latins d'Orient se sont établis, mais que l'entourage des autres États musulmans autour ne sont quand même pas restés passifs. Ils ont peut-être été surpris au début, un peu sonnés, puis après ils se sont vite remis debout. Et il a fallu défendre ces royaumes. Eh bien, très vite... Il ne faut pas trop se polariser sur les Templiers, ils défendent les pèlerins, oui, d'accord, mais très vite, ils avaient aussi l'intention de défendre la terre, comme ils disaient. Quand ils reprochaient aux chanoines du Saint-Sépulcre de mal les employer, c'est dit « on ne fait rien pour défendre la terre ». Bah, c'était la terre, c'était le royaume de Jérusalem, c'était pas les quelques biens que les chanoines du Saint-Sépulcre avaient ici ou là. Donc, très vite, les Templiers ont conçu leur mission globalement. Les pèlerins, d'accord, mais aussi l'ensemble, une force, une petite force au service des États latins d'Orient. Alors, voilà comment est né l'ordre du Temple. Donc, vous voyez qu'il permet à des gens qui, dans la vie, étaient chevaliers, c'est-à-dire des gens qui savaient combattre à cheval, qui étaient au service de seigneurs, qui peu à peu se sont émancipés, sont devenus seigneurs eux-mêmes. Eh bien, ces gens-là peuvent désormais, sans abandonner leur genre de vie, sans abandonner le combat, faire œuvre pie, faire leur salut en pratiquant la violence, à condition de la pratiquer contre l'adversaire du non-chrétien, comme on disait alors, c'est-à-dire les infidèles, comme on disait aussi. Quelquefois, on disait les païens, mais ça, on savait déjà que les musulmans n'étaient pas des païens, malgré tout, à l'époque. Hein, et contre les sarrasins, qui était le terme le terme général utilisé pour désigner les populations proche-orientales. les morts en Espagne, franchement. Alors, ça, voilà, c'est le temple, le point de départ, c'est ça, c'est l'ordre du temple, c'est le premier ordre religieux militaire. Il pouvait pas y en avoir d'autres tant que cette expérience-là n'avait pas été acceptée, tant que ce nouvel institut religieux, très particulier quand même, avouons-le, n'avait pas été accepté par l'Église et reconnu par elle. À partir de là, d'autres ordres religieux militaires vont pouvoir se créer. Alors, il y en a de deux types, si on peut dire. En Orient, dans l'Orient de latin issu de la croisade et de la libération de Jérusalem, il y avait d'autres personnes qui s'occupaient des pèlerins. Il y avait d'autres croisés ou des gens qui étaient établis qui s'occupaient des pèlerins. Il y avait en particulier ceux qui servaient dans l'hôpital de Jérusalem, l'hôpital avec un petit H. L'hôpital qui a été créé, fondé, bon, il y en a toujours eu, hein, Jérusalem est un site de pèlerinage depuis longtemps, et il y a toujours eu des pèlerins, il y a toujours eu des hôpitaux, mais il y a eu des interruptions. Alors, cet hôpital, celui dont on parle, avec un petit H encore, c'est un hôpital qui a été fondé vers 1070, un peu avant, un peu après, par des marchands d'Amalfi, la ville italienne d'Amalfi, qui faisaient du commerce en Méditerranée orientale et qui avaient comme centre de leurs affaires Constantinople, mais qui souvent allaient en Égypte et en Syrie et passaient à Jérusalem et faisaient leur dévotion et le pèlerinage quand ils passaient à Jérusalem en même temps qu'ils faisaient leurs affaires. Et ce sont eux qui ont créé cet hôpital, qui a eu comme premier recteur connu, à partir du moment, comme dirigeant connu, à partir du moment où il s'est affranchi des établissements bénédictins duquel il était issu au départ, je n'entre pas dans le détail parce que ce serait un peu trop long, il a été dirigé par un dénommé Gérard, qui est probablement un amalfitain, et non pas originaire de Martigues, qui ne s'appelle pas Gérard Tinque. Tinque est la francisation du latin tunc, qui veut dire « alors ». Alors vous voyez bien comment on fait. Gérard, alors, hein, Gérardus, tunc, fit quelque chose, n'importe quoi, il ramassa des pommes, tout ce que vous voulez. Et évidemment, il y a des petits malins qui ne savaient pas ce que ça voulait dire, qui l'ont appelé Gérard Tinque. Et puis après, ben, on a dit, c'est à Martigues, il y a un truc. Et voilà. Comme ça, on se forme les mythes, les légendes et les absurdités. Donc, ce Gérard, on n'en connaît pas grand-chose, mais c'est lui qui a dirigé cet hôpital au moment, et qui était le dirigeant de cet hôpital, au moment où les croisés sont arrivés, et l'hôpital existant avant, et où les croisés ont pris le contrôle de Jérusalem. Et donc à partir de là, évidemment, il y a eu un afflux de pèlerins. Jérusalem étant aux mains des latins, était beaucoup plus facile d'y aller en pèlerinage. Donc les besoins hospitaliers, c'est-à-dire accueillir les pèlerins, les héberger, les soigner, se sont accrus. Et donc, l'hôpital s'est développé. Il s'est développé, il a reçu des privilèges et il est devenu l'hôpital avec un H majuscule en 1113. Donc, avant le temple, vous voyez, hein, avant le temple, il est devenu finalement un chef d'ordre, d'un ordre hospitalier, d'un ordre charitable hospitalier. Et c'est à partir de là que, ben, il s'est développé, il y a eu des dons un peu partout, il y a des hôpitaux qui existaient en Occident, qui se sont affiliés à lui. Donc, il y a eu une organisation sur l'ensemble de la chrétienté, en Orient comme en Occident, qui s'est formée avant même l'existence du Temple. Mais il fallait que le Temple soit créé, soit reconnu, pour que l'hôpital de Jérusalem, l'ordre de l'hôpital, ou des hospitaliers de Saint-Jean, par référence à Saint-Jean-Baptiste, qui fut leur patron à ce moment-là, eh bien, il fallait que l'ordre du Temple soit reconnu pour que l'ordre de l'hôpital se transforme en ordre militaire ou se militarise. Bon, le problème de la militarisation de l'ordre de l'hôpital fait couler beaucoup d'encre. En général, c'est pas vraiment un problème fondamental. Il a exercé au départ des activités militaires avec d'autres, en recrutant des mercenaires, hein, c'est-à-dire des gens soldés. On sait très bien, par exemple, que la participation de l'ordre de l'hôpital Alors qu'il est déjà pleinement formé, pleinement épanoui. Dans les années 1163, 1168, les participations aux expéditions d'Égypte lancées par le roi de Jérusalem Amaury ont été faites par l'ordre de l'hôpital grâce à des chevaliers engagés, soldés, qu'il a payés, qu'il a recrutés, qui n'étaient pas frères et membres de l'ordre. C'est pour ça d'ailleurs que le Gilbert d'Assailly, qui était le maître de cet ordre de l'hôpital à ce moment-là, a mis son ordre en faillite quasiment et qu'il a été révoqué, qu'il a été obligé de démissionner et qu'il y a eu une crise interne dans l'hôpital à ce moment-là. Bon, il n'y avait plus d'argent. Bon, bref, peu importe, il y a eu un moment où, d'une part, l'ordre de l'hôpital a exercé des activités militaires exactement de la même façon que le faisait le temple et où, ensuite, dans un deuxième temps, il s'est transformé intrinsèquement en ordre religieux militaire, c'est-à-dire que dans l'ordre, il y a eu une catégorie spéciale de chevaliers frères de l'ordre, comme il y avait une catégorie de chevaliers frères de l'ordre dans l'ordre du Temple, qui avait une vocation militaire. Donc, l'ordre de l'hôpital, c'est l'exemple d'un ordre qui, d'abord hospitalier et restant hospitalier, se militarise. Sur le même modèle, un siècle plus tard, enfin à la fin du XIIe siècle, va se former aussi l'ordre des Teutoniques, Sainte-Marie des Teutoniques. Il se forme à Jérusalem. Là aussi, à partir d'un hôpital de campagne. Vous savez, après la chute de Jérusalem en 1187, la prise de Jérusalem par Saladin, les États latins disparaissent quasiment de la carte. Puis Tyr résiste, puis on reprend Acre, et au cours de ce siège d'Acre qui a été très long, eh bien, Acre, la ville, est musulmane à ce moment-là, elle est assiégée, et les assiégeants, qui sont latins, qui sont chrétiens, sont eux-mêmes assiégés. Donc il y a trois cercles. Bien, dans cette situation pas très confortable, des Allemands, des pèlerins allemands, des croisés allemands ont créé un hôpital de campagne pour les Allemands. Il y avait des problèmes de langue qui se posaient, etc. Et cet hôpital, une fois Acre reprise, a été installé dans la ville d'Acre et a été transformé en ordre militaire dans les années qui ont suivi la reprise d'Acre. Et il a été bien spécifié que sa règle suivrait les usages de l'hôpital pour ce qui concernait l'hospitalité et le soin aux pèlerins, et la règle du temple pour ce qui concernait la vie conventuelle et les activités militaires. Donc, d'emblée, si vous voulez, l'ordre des Teutoniques est fondé à la fois comme hospitalier et militaire, ce en quoi il ressemble davantage à l'hôpital qu'au temple, qui n'est pas hospitalier, qui ne sera jamais un ordre hospitalier, qui est un ordre purement militaire. Sur un autre terrain, en Espagne, ces ordres de Terre Sainte, le temple et l'hôpital, ont reçu aussi des biens en Espagne. Les souverains espagnols engagés dans la reconquête, que ce soit le roi de Castille, le roi de Portugal, le roi d'Aragon et comte de Barcelone, ont tout de suite compris l'intérêt que pouvait représenter ce type de structure dans leurs États pour renforcer leurs moyens dans la reconquête aux dépens des royaumes musulmans, ce qu'on appelle les royaumes de Taïfas à l'époque. Et puis surtout ensuite face aux poussées almoravides puis almohades en Espagne. Donc ils ont essayé d'impliquer les ordres de Terre Sainte, les hospitaliers et les templiers. Ils n'y sont pas totalement parvenus. Plus exactement, templiers et hospitaliers n'ont pas refusé, ils n'ont pas pu. Mais ils ont toujours mis, en quelque sorte, un frein en disant « Attention, notre objectif, nous, notre mission, elle est à Jérusalem, elle est en Terre Sainte. Il ne faut pas que, en Espagne, sur le front de la reconquête, on disperse nos moyens qui doivent être en priorité consacrés à Jérusalem. » Alors, sans refuser de participer aux opérations militaires de la Reconquista, ils n'ont jamais accepté d'y être complètement impliqués. On a dit que les Templiers portugais avaient pratiquement rompu avec l'ordre du Temple pour se consacrer uniquement à ce qui se passait au Portugal, c'est faux. Hein. On a des traces qu'à la fin, au moment du procès des Templiers, par exemple, eh bien, on sait très bien qu'il y a à Chypre, dans les Templiers qui sont à Chypre à ce moment-là, eh bien, il y a des Templiers portugais et des Templiers castillans, des Templiers aragonais qui sont là. Donc, ils sont pas, c'est pas des gens qui sont en rupture de ban. Il y a un mouvement qui s'est continué, un lien qui est resté entre ces ordres de Terre Sainte installés en Espagne, entre leur maison d'Espagne, de la péninsule ibérique, disons, et l'Orient. Mais, en revanche, en Espagne, des ordres religieux militaires propres à l'Espagne ont été créés. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont été souvent patronnés par l'ordre de Cito, presque tous, sauf l'ordre de Santiago, et qu'ils ont, d'autre part, été, là encore, avec l'exception notable de Santiago, des ordres purement militaires sur le modèle du temple, et non pas des ordres charitables et militaires, l'ordre de Santiago étant, faisant un peu l'exception, étant un peu particulier. Alors, ces ordres, c'est l'ordre de Calatrava, l'ordre d'Alcantara, l'ordre d'Avis, et puis on a l'ordre de Santiago, mais qui est un peu différent, qui a une origine un peu différente. Il faut bien voir que l'Espagne est divisée en plusieurs royaumes. Il y a l'Aragon qui va finir par être lié au comté de Barcelone. Il y a le royaume de Navarre. Il y a le royaume de Castille et le royaume de Léon qui sont quelquefois unis mais quelquefois séparés. L'union définitive ne se fait qu'en 1230. Et puis, il y a le royaume de Portugal. Et chacun de ces royaumes va, en quelque sorte, créer son propre ordre. Calatrava sera castillan, Santiago sera en partie léonais au départ. Bon, finalement, ils vont s'établir un peu dans l'ensemble des États espagnols, mais on va toujours garder cette diversité à la fois des États ibériques, ça dure encore, hein, et d'autre part des ordres religieux militaires qui vont y être créés. Donc, vous voyez deux types de création dans ces ordres religieux militaires à partir de l'expérience du temple. Une qui se fait de l'expérience du temple et de la transformation de l'expérience hospitalière. Donc, une qui se fait dans la filiation de l'ordre des hospitaliers. C'est l'ordre de l'hôpital lui-même qui se transforme en ordre militaire. C'est l'ordre des Teutoniques. C'est l'ordre de Santiago en partie. Et puis, une autre qui se fait dans l'affiliation de l'ordre du Temple, ce sont les autres ordres ibériques, et quelques ordres qu'on trouvait sur les rivages de la Baltique, au contact des païens de Prusse, puis des païens de Livonie, païens soit Prusse, hein, c'est une peuplade de la région, soit des peuples slaves, qui n'étaient pas encore convertis au christianisme, eh bien, il y a eu, au début du XIIIe siècle, des tentatives de créer dans ces régions des ordres religieux militaires. Ça a échoué, ça n'a pas donné grand-chose, pas grand résultat, tellement que ces ordres ont disparu, absorbés par un nouveau venu, mais qui, lui, avait déjà une existence solide, l'ordre de Sainte-Marie des Teutoniques de Terre Sainte, qui a été appelé sans abandonner la Terre Sainte. Hein, l'ordre teutonique est resté implanté dans le royaume de Jérusalem, ou ce qu'il en restait, pendant tout le XIIIe siècle. Le château de Montfort, qui a été le siège de l'ordre teutonique en Palestine, est resté aux mains des teutoniques jusqu'en 1271, date à laquelle il a été conquis par les mamelouks, par les musulmans. Mais entre-temps, l'ordre teutonique s'était, non pas encore reconverti, mais s'était installé aussi en Prusse. Et il va, évidemment, quand les États latins d'Orient vont disparaître à la fin du XIIIe siècle, il va pouvoir se reconvertir sur les rivages de la Baltique et mener une mission qui est celle de convertir les païens de ces régions au christianisme, mission qu'il va mener de façon assez musclée, dirons-nous, qui lui vaudront quelques déboires, mais qui vont aboutir à la création de véritables États, d'un véritable État qui est l'État de Prusse, hein, la Prusse teutonique, qui va devenir un véritable État et avec ses annexes en Livonie, c'est-à-dire dans les pays baltes actuels, où là, les Teutoniques n'ont pas été les maîtres d'un État livonien, parce qu'ils se sont heurtés, d'une part, à la résistance de l'archevêque de Riga, et à la résistance de la ville de Riga et des bourgeoisies urbaines de ces villes. Ce qui fait que, dans ces zones-là, les Teutoniques ont dû partager le pouvoir. Alors qu'en Prusse, ils ont eu la mainmise totale, y compris sur le clergé séculier. C'est eux qui nommaient les évêques, et les évêques de Prusse étaient des évêques teutoniques, d'origine teutonique. Donc voilà un peu ce champ, et c'est l'ensemble de ces ordres religieux militaires qui ont vécu, bien, ils ont vécu évidemment de façon très différente, hein, suivant les expériences. Bon, passons rapidement sur l'ordre du Temple, qui, premier fondé, a été le premier à disparaître, victime de Philippe le Bel, et disons de l'État moderne, ou du moins d'une certaine variante assez autoritaire de ce qu'on a appelé l'État moderne. Et puis les autres, eux, ont continué. Alors, de façon plus ou moins heureuse, l'ordre des Teutoniques, par exemple, s'est très rapidement heurté à l'ensemble, au royaume lituanien, lituano-polonais, et a fini par disparaître, non pas par disparaître, mais a fini par se fragmenter, se diviser avec la réforme protestante. Dans la mesure où le dernier grand maître de l'ordre teutonique, le dernier grand maître médiéval de l'ordre de Teutonique, des Teutoniques, Albert de Brandebourg, hein, s'est converti au luthéranisme et a sécularisé les biens de l'ordre teutonique, c'est-à-dire qu'il a sécularisé la Prusse, et il est devenu le maître de la Prusse, prince de la Prusse, et plus tard, ça donnera le royaume de Prusse. Bon, et il y a eu la même chose un peu plus tard, en Livonie, avec la formation d'un duché de Courland, on a procédé de la même façon, c'est-à-dire que le prince, le maître de Livonie, s'est converti, a sécularisé la région et les biens de l'ordre, et est devenu prince de Courland. Alors, l'ordre teutonique n'a survécu que dans les États catholiques allemands. Mais il a survécu jusqu'à nos jours, puisqu'il existe toujours. Il est passé à travers le nazisme, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas du tout été un suppôt du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été au contraire en partie persécuté et s'est bien saisi par les nazis, ce qui fait qu'il s'est réapparu tout de suite après la fin de la guerre. Il a son siège à Vienne. C'est les Habsbourg qui avaient un peu récupéré l'ordre teutonique. Et puis l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean, ben, les hospitaliers de Saint-Jean, eux, se sont d'abord emparés de l'île de Rhodes dans les années 1306, 1309, 1310, ça a mis 4 ans à peu près pour la conquête au moins de la ville. Ils ont pu établir une sorte d'État, un peu comme le royaume comme la Prusse teutonique, hein, une sorte de ce qu'on appelle un Ordenstaat, c'est les Allemands qui appellent ça comme ça, un État d'ordre. Hein, ils ont survécu jusqu'à la conquête turque de Soliman le Magnifique en 1522, et ils se sont réfugiés après avoir erré un peu en Méditerranée. Ils ont fait escale notamment à Villefranche-sur-Mer. Ils se sont reconvertis à Malte, et puis maintenant à Rome. Ils sont redevenus des ordres un ordre charitable. Bon, je passe sur d'autres petits ordres qui se sont développés à cette époque. Le dictionnaire vous les donne intégralement. Tous les ordres, même les plus petits d'entre eux, ont droit à une notice. Même les plus évanescents ont droit à une notice dans notre dictionnaire. Alors, j'en viens l'intérêt de présenter quand même un petit peu ce dictionnaire dans le petit quart d'heure dix minutes qui me restent. Si vous voulez, ce dictionnaire, il vient à son heure parce que ça correspond à un moment où les historiens qui s'occupent des ordres religieux militaires ont développé toute une série de recherches qui ont pour effet, si vous voulez, à la fois de bien montrer la singularité de ces ordres religieux militaires, mais en même temps de bien inscrire cette singularité dans un contexte général, dans une histoire générale, d'où jusque-là, en gros, c'est très schématique ce que je vous dis là, d'où jusque-là, en gros, les ordres étaient exclus. Si vous voulez, on a dans l'historiographie, dans l'histoire, de l'histoire des ordres, hein, on a eu une fâcheuse tendance à traiter les ordres chacun de leur côté. Ça a été le cas, parce que là, beaucoup des historiens des ordres étaient membres de ces ordres, et donc travaillaient pour leur paroisse, si je puis dire, sans vue d'ensemble et sans chercher à voir ce que faisait le voisin. Donc on avait des histoires. Bon, on peut parler, par exemple, au XVIIIe siècle, de l'histoire de l'ordre des hospitaliers de l'abbé de Vertot, par exemple, qui est une monumentale histoire de l'ordre des hospitaliers, où il y a des faits, des faits, des faits, mais au-delà de l'ordre des hospitaliers, il n'y a rien. Hein. Alors, c'était pareil pour l'Espagne, c'était un peu pareil pour l'ordre teutonique, à ceci près que là, il y a eu de sérieuses empoignades entre nationalisme allemand et nationalisme polonais. Donc ça a complètement vicié le débat historique sur l'ordre et ça a fortement perturbé, je dirais, la recherche historique sur l'ordre des teutoniques. Mais donc on est resté, si vous voulez, on avait des ordres qui existaient comme ça, ce qu'on appelait en soi. L'ordre existait en soi et ses rapports avec le reste du monde n'avaient strictement aucun intérêt. On cherchait à faire l'histoire de son ordre tranquillement, gentiment, sans s'occuper de savoir pourquoi, dans le fond, ces ordres avaient été créés et institués. Or, l'historiographie, les historiens des ordres religieux militaires ont, depuis une quarantaine d'années, abandonné ce schéma et ont, en quelque sorte, réintégré les ordres religieux militaires dans l'histoire générale. C'est-à-dire que, sans faire disparaître, au contraire, en insistant bien sur la singularité de ces ordres. Je prends simplement un seul exemple, parce que c'est le plus caractéristique et le plus curieux. Les historiens de l'Église, et en particulier les historiens des ordres monastiques, se sont très très peu intéressés aux ordres religieux militaires. On les mentionne, oui, parce que ce sont des ordres religieux, mais ça ne les intéresse pas, c'est à côté, c'est pas pour eux, c'est pas de... Bon. Ah, la règle de Cluny, la règle bénédictine, ah, les mendiants, ça c'est très bien. Les ordres religieux militaires, on n'en parle pas ou très peu. Bon, si, bien sûr, il y a un paragraphe. Si vous avez un manuel sur les ordres religieux, vous avez un paragraphe sur le temple, l'hôpital, etc. Mais on n'utilise pas. On ne va pas chercher, simplement, on ne va pas utiliser, par exemple, les textes normatifs, les règles, les statuts, etc., des ordres religieux militaires, au même titre qu'on utilise les règles et les statuts de Cluny, de Cîteaux, etc., pour dégager un certain nombre de vues d'ensemble, de vues générales, sur l'évolution du monachisme au cours de l'époque médiévale. Il en a presque pareil pour l'activité militaire. Encore que c'est un peu différent dans la mesure où on a dans la règle du temple tout un... plus exactement dans les annexes de la règle, dans les statuts, ce qu'on appelle les retraits, on a des articles qui sont un ensemble consacré à l'organisation militaire du temple, qui a été utilisé par beaucoup d'historiens de l'histoire militaire médiévale. Ils l'ont utilisé pour l'ensemble de l'histoire militaire médiévale. Là encore, on n'a pas cherché à savoir en quoi l'ordre du temple, vu sa situation en Orient, etc., pouvait être particulier, même sur le plan de l'action militaire. Donc, c'est le moment, si vous voulez, un tournant a été pris, bon, il n'est pas encore, c'est pas encore général, mais le tournant a été pris, les ordres religieux militaires sont maintenant étudiés avec tous leurs aspects singuliers, tous leurs aspects tous les aspects qui font que ces ordres forment une véritable famille des ordres religieux militaires. Il y a un ensemble, il y a des tas de points communs, il y a des tas de différences, mais il y a des tas de points communs. Et ces points communs, si vous voulez, alors qu'ils avaient servi, alors que les historiens, en général, se sont appuyés là-dessus pour marginaliser les ordres, les mettre de côté dans leurs études, dans l'historiographie, eh bien, au contraire, ce sont ces points communs, ces singularités des ordres qui ont fait leur succès à l'époque où ils ont été créés, au Moyen-Âge en particulier, qui ont fait leur succès dans la société de ce temps. Et ça, on l'oublie. Ce qui a été le prétexte à marginalisation pour les historiens était au contraire un instrument d'intégration complet à la société du temps pour les gens du temps ou à l'époque où ces ordres ont été créés. Alors, ce dictionnaire tombe bien parce qu'il vient justement dans ce moment-là, à un moment où l'historiographie a pris un tournant, et un peu partout. Et deuxième aspect, il y a une famille des ordres religieux militaires, il y a aussi une famille des historiens des ordres religieux militaires. Il y a, vous savez, je compare souvent ça à ce qu'on appelle le cirque blanc en ski. Vous savez, chaque année, on se retrouve à Garmisch, à ici et là, etc. Il y a une descente, un machin, un truc, c'est toujours les mêmes, ça reprend de l'année à l'année. Eh bien, nous, on fait pareil, les historiens des ordres religieux militaires, on se retrouve assez régulièrement dans des réunions et des colloques. Il y en a à Torun en Pologne, il y en a à Palmela au Portugal, il y en a une autre, bon, etc. Donc, on se connaît bien et on n'est pas, en général, on n'est pas trop replié sur nous-mêmes. On a ouvert les portes quand même. Ce que je regrette quelquefois, c'est que nos petits camarades historiens, d'autres qui ne s'occupent pas trop d'ordre militaire, quelquefois ne sont pas très curieux et n'ouvrent pas trop la porte quand on frappe pour leur dire « mais prenez ». Utiliser la règle du temple ou la règle de l'hôpital, les règles de l'hôpital, pour une étude de la spiritualité religieuse des gens de l'Occident du XIIe ou du XIIIe siècle est extrêmement important. Si on ne l'utilise pas, on passe à côté de une série de choses qu'on ne comprendra pas. Parce que, justement, ces ordres ont été orientés. La papauté de l'époque, la papauté grégorienne, a bien vu, a bien cherché, elle a cherché à apporter aux laïcs des solutions à ces problèmes spirituels, à ces besoins spirituels. Et les ordres religieux militaires, comme un siècle plus tard, les ordres mendiants franciscains et dominicains, avec lesquels les ordres religieux militaires ont plus d'un point commun, et dans l'expérience des ordres religieux militaires, les franciscains et dominicains ont puisé dans l'expérience des ordres religieux militaires et dans les textes normatifs des ordres religieux militaires, ils ont trouvé des choses. Donc c'est extrêmement important. Alors je terminerai en disant quelques mots de l'élaboration de ce dictionnaire. Ça a été un ouvrage collectif. Ça fait 6 ans que ça a pris 6 ans. On a commencé en 2002-2003. Au cours des réunions d'un petit staff là, d'une quinzaine d'historiens d'un peu partout en Europe, on était quand même 5 ou 6 nationalités représentées, à Lyon, qui nous a hébergés, et sous la direction de Philippe Josserand et de Nicole Berriou. Et je voudrais faire remarquer que ce qui est très intéressant dans cette opération, c'est que Philippe Josserand, c'est lui qui a eu sans doute l'idée, qui a voulu, enfin c'est le premier qui en a parlé en tout cas. C'est quelqu'un qui travaille sur les ordres religieux militaires ibériques, notamment en Castille, et qui apporte, par rapport à l'historiographie traditionnelle ibérique sur les ordres, qui est quand même, il faut la secouer un peu, hein, c'est pas simple avec les Espagnols et les Portugais pour faire admettre un certain nombre de choses. En particulier qu'il n'y a pas que l'Espagne sur la terre à l'époque, que même pour un Templier, un Hospitalier, et même pour un Catalan ou un Castillan, aller en pèlerinage à Jérusalem, c'est quand même important, même s'il y a Compostelle, même s'il y a les morts, etc. Ils ont envie d'y aller quand même. Hein. Donc Josserand a apporté, lui, ce point de vue un peu extérieur, car français sur la chose, a mis un peu, donc, a été un peu le chien dans le jeu de quilles, espagnol, si je puis dire. Et Nicole Berriou, elle n'est pas du tout... il y avait des sœurs hein, dans les ordres religieux militaires, ils n'ont pas exclu les femmes, contrairement à ce qu'on dit ou à ce qu'on croit, mais Nicole Berriou n'était pas du tout... n'a pas du tout une formation d'historienne des ordres religieux militaires. Elle a une formation d'historienne de l'histoire des religions, sur la prédication, sur la liturgie, sur les choses-là. Elle a fait des choses fort intéressantes et fort importantes. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les franciscains et les dominicains. Mais c'est elle qui a été, parce qu'elle était à Lyon et parce que Lyon offrait ce cadre de l'opération, eh bien, elle a été le maître d'œuvre de cette opération avec Philippe Josserand, au même titre et de plus en plus impliquée dans l'opération. Elle est devenue de plus en plus une consœur ou une sœur des ordres religieux militaires en général. On peut l'accueillir maintenant dans la confrérie sans aucun problème. Elle a absolument prononcé tous les vœux requis pour cela. Et c'est ce qui rend, le travail, c'est ce qui a rendu en tout cas l'expérience de ce dictionnaire extrêmement importante et je crois novatrice. Alors il restera évidemment un problème, vous allez me dire, mais vous avez vu le prix, 150 euros, ben oui, bien sûr, mais 230 historiens, 230 articles, la moitié traduits, à traduire, ben évidemment ça fait des frais, il y a quand même 1200 pages, il y a des cartes, il y a des images, il y a tout, ben oui, voilà. C'est pas un ouvrage qui est fait pour l'air du temps et durer 3 mois. Ça, en principe, c'est quelque chose qui devrait rester dans les bonnes librairies pendant un certain temps ou un temps certain. Je vous remercie.